Puis son jeune âge, on le disait, guidé par un loup, et il mena donc une vie de pèlerin. Bon réveil avec Europe 1. Nous sommes le mardi 17 juin, il est 8h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Emmanuel ne comprend jamais rien. La déclaration tonitruante de Donald Trump il y a quelques minutes sur son réseau Truth Social. Le locataire de la Maison Blanche dément avoir prématurément quitté le G7 pour travailler sur un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Contrairement, dit-il, aux affirmations d'Emmanuel Macron, le président français qui continue de demander un cessez-le-feu et des négociations tout en soutenant Israël. Explication à Europe 1 dans un instant. Les sirènes d'alerte viennent de retentir à nouveau au-dessus de Tel Aviv où nous allons rejoindre le correspondant d'Europe 1 sur place. Israël fait tout pour que les Américains lui prêtent main forte contre l'Iran. Washington, de son côté, joue la carte de la négociation. Faut-il réduire le budget 2026 pour les aides à domicile? Le gouvernement y pense, mais le travail au noir dans ce domaine est déjà légion. Étude Europe 1 que nous vous dévoilons dans un instant. À 8h10, votre invité ce matin. Bonjour Sonia Mabrouk.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Elle porte des réformes sensibles et brûlantes. Elle ne s'est pas exprimée depuis longtemps et a choisi notre antenne pour le faire. Rachida Dati, la ministre de la Culture, est notre invitée. À tout à l'heure.
Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une pluie de missiles en ce moment en Israël. Après une nuit d'angoisse, les civils sont de nouveau confinés dans leurs pièces sécurisées depuis quelques minutes. Si le dôme de fer a bien tenu cette nuit, tous espèrent qu'il sera encore efficace ce matin. Bonjour Frédéric Simon.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Vous êtes vous-même en ce moment dans votre abri, dans cette pièce spéciale, dans votre logement?
Oui, oui, tout à fait. Les sirènes ont retenti dans le centre et le nord du pays il y a une vingtaine de minutes environ. Je suis donc, à un moment où je vous parle, avec mes proches et avec les membres de ma famille, dans la chambre sécurisée de l'appartement. On a entendu très distinctement des détonations assez proches de l'endroit où nous nous trouvons, dans le centre du pays. Ces détonations importantes correspondent aux interceptions des missiles par la défense antiaérienne, mais on sait que plusieurs de ces missiles ont échappé à cette défense antiaérienne et se sont abattus sur des zones résidentielles dans les environs de Tel Aviv. À l'heure où je vous parle, on ne sait pas encore s'il y a des blessés.
Alors faites attention à vous. Hein. Depuis le début de cette guerre, Frédéric, la semaine dernière, ce qu'Israël attend surtout, c'est un engagement des États-Unis à ses côtés?
Oui, depuis le lancement de l'opération Éveil du Lion, il y a 5 jours, l'armée et les services secrets israéliens ont infligé des coups sévères au régime des Mollahs. Une grande partie de sa défense antiaérienne et de son arsenal de missiles ont été détruits. Des membres du haut commandement des gardiens de la Révolution et de l'armée ont été tués, presque tous, ainsi que plusieurs scientifiques de haut rang impliqués dans le développement du programme nucléaire. Quant aux installations liées à ce programme, eh bien, certaines ont été sérieusement endommagées, mais l'impact n'est que relatif. La plupart des centrifugeuses et des stocks d'uranium enrichi sont profondément enfouis sous terre. Or, l'armée israélienne ne dispose pas des bombes perforantes capables d'atteindre ses objectifs, d'où l'intérêt pour Israël de convaincre les États-Unis de lui fournir soit ce type d'armement, soit de s'impliquer directement à ses côtés dans l'offensive menée contre l'Iran. Sans implication américaine, estiment les experts israéliens, le conflit risquerait de se prolonger, voire même de s'enliser en une véritable guerre d'usure.
Merci Frédéric Simon à Tel Aviv. Pour Europe 1, on pense bien à vous, soyez prudents surtout.
Et à Washington, Donald Trump, lui, réunit son Conseil de sécurité nationale dans la Situation Room, la salle de crise de la Maison Blanche.
Oui, le président américain a quitté précipitamment le G7 à Kananaskis, au Canada, un jour plus tôt que prévu. Et s'il appelle un accord de cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, on va en reparler dans un instant. En coulisses, en tout cas, le locataire de la Maison Blanche déploie ses forces au Moyen-Orient, Rémi Amalvi.
Oui, il y a d'abord eu cette publication de Donald Trump il y a quelques heures sur son réseau Truth Social où il appelle, je cite, « tout le monde à quitter Téhéran immédiatement ». Le président américain qui est rentré précipitamment du G7 au Canada pour assister à une réunion de son cabinet d'urgence à la Maison Blanche. Peu après, il a assuré toujours sur Truth Social que son départ anticipé n'avait rien à voir avec un potentiel cessez-le-feu, taclant au passage Emmanuel Macron. Il n'a aucune idée de la raison pour laquelle je suis maintenant en route pour Washington, mais cela n'a certainement rien à voir avec un cessez-le-feu. C'est en porté le président américain à propos de son homologue français. C'est beaucoup plus gros que ça, volontairement ou pas, Emmanuel ne comprend jamais rien. À côté de ça, d'importants mouvements militaires américains ont été constatés. Les États-Unis ont déplacé 2 destroyers en Méditerranée orientale et le porte-avions américain Nimitz, qui croisait en mer de Chine méridionale, est actuellement en route vers le Moyen-Orient. Enfin, une trentaine d'avions ravitailleurs ont décollé des États-Unis dans la nuit de dimanche à lundi et se sont dirigés vers plusieurs bases en Europe et plusieurs bombardiers B-2, qui transportent des bombes capables d'atteindre les installations nucléaires iraniennes souterraines, auraient été déployés sur la base de Diego Garcia dans l'océan Indien.
Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Alors, si Donald Trump a quitté le G7, c'est parce que, dit-il, c'est beaucoup plus gros que ça, beaucoup plus gros qu'un simple cessez-le-feu en discussion. Des mots qui inquiètent évidemment les civils iraniens. C'est ce qu'expliquait tout à l'heure l'invité d'Europe 1 Matin, Emmanuel Razavi, grand reporter et spécialiste du Moyen-Orient.
Ils comprennent que les frappes vont être extrêmement violentes et qu'il y a un risque de frappe en fait américaine, mais ce qui vient de m'être dit en fait par une personne avec qui je viens de parler, qui est à Téhéran, il y a quelques minutes, c'est qu'on leur dit sur place de toute façon que les Américains vont venir bombarder en fait les populations civiles aussi intentionnellement.
Le régime iranien dit.
C'est le régime qui fait effectivement sa propagande, sa communication intérieure. Après, il y a une réalité, c'est que de toute façon, si ça tape, il y aura des dommages collatéraux, même si les civils ne sont pas délibérément en fait ciblés. Les personnes âgées ne veulent pas quitter leur maison, ne veulent pas quitter en fait leurs appartements, et que dès lors, leurs enfants, leurs familles restent auprès d'elles. Vous imaginez la tragédie en fait que ça peut être si ces gens sont frappés.
Emmanuel Razavi, auteur de La face cachée des Mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran. Interview complète à retrouver sur Europe1.fr et l'appli Europe 1.
Et le G7 ce matin appelle à une désescalade régionale en Iran comme à Gaza et il reconnaît le droit d'Israël à se défendre.
Oui, dans un communiqué signé d'ailleurs par Donald Trump avant son départ, le G7 désigne l'Iran comme principale source d'instabilité et de terrorisme dans la région, affirmant qu'il ne devra jamais disposer d'une arme nucléaire, une position commune qui n'empêche pas Emmanuel Macron de jouer sa propre partition, comme le lui reproche d'ailleurs Donald Trump chaque soirée.
Oui, Emmanuel Macron défend sa position et martèle ce message auprès des autres dirigeants.
Il est absolument essentiel que toutes les frappes de part et d'autre qui se font contre des infrastructures énergétiques, administratives, culturelles et encore plus contre la population civile cessent. Rien ne les justifie, rien. Et elles sont, elles, absolument intolérables.
Le chef de l'État estime que la chute du régime de Téhéran ne doit pas être un objectif pour Israël.
Je pense que tous ceux qui croient qu'en frappant avec des bombes depuis l'extérieur, on sauve un pays malgré lui-même ou contre lui-même, se sont toujours trompés. Je pense que les peuples sont souverains, ils changent leurs dirigeants par eux-mêmes et que tous ceux qui ont voulu par le passé changer des régimes par des frappes ou des opérations militaires ont commis des erreurs stratégiques.
Emmanuel Macron, qui ne peut que constater le départ de Donald Trump, le président américain a quitté prématurément ce sommet afin de rentrer à Washington. Trump ne verra donc pas Volodymyr Zelensky demain, alors que Paris essaie toujours de convaincre la Maison-Blanche d'acter de nouvelles sanctions contre la Russie.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Vous écoutez Europe 1 Matin, il est 8h07.
Peut-être employez-vous une femme de ménage, une nounou, un prof particulier, un jardinier, mais est-ce que vous les déclarez ?
Et près d'une prestation à domicile sur 2 n'est pas déclarée. C'est la conclusion de l'enquête annuelle Stop au travail au noir qu'Europe 1 vous révèle en exclusivité ce matin. Dans 48% des cas, la prestation est payée de la main à la main et ce malgré un crédit d'impôt qui coûte plus de 6 milliards d'euros par an à l'État, Baptiste Morin.
Oui, les prestations à domicile sont un peu plus déclarées d'année en année. Mais la progression reste lente. Pour Guillaume Richard, le PDG du groupe WeCare, le numéro 1 français des services à domicile, c'est avant tout un manque de connaissance des ménages.
Il reste un niveau de méconnaissance, il reste une insuffisance de communication. Et là, c'est à nous aussi, les professionnels, et puis au gouvernement, de communiquer de façon un peu plus importante sur, justement, ce crédit d'impôt qui permettrait définitivement de tuer le travail au noir en France.
Au besoin de pédagogie, il faut ajouter les effets néfastes des débats récurrents autour du crédit d'impôt emploi à domicile. Depuis quelques semaines, le gouvernement a de nouveau émis l'idée de réduire son champ d'action, mais les conséquences seraient immédiates, prévient Mathieu Plane, économiste directeur adjoint à l'OFCE.
Si jamais il n'existait pas le dispositif, on ne serait pas à une personne sur deux, mais peut-être à 80% des personnes. Si on réduit les aides, le risque est toujours de basculer vers une partie de travail non déclaré.
D'après l'enquête Stop au travail au noir, 84% des Français auraient tendance à recourir au travail non déclaré en cas de réduction ou de suppression du crédit d'impôt. d'impôts.
Baptiste Morin, chef du service Société d'Europe 1.
Et puis le conclave sur les retraites doit s'achever aujourd'hui, mais François Bayrou s'est dit ouvert à quelques jours de négociations supplémentaires.
Oui, le Premier ministre qui a par ailleurs formulé une nouvelle proposition hier, une prime pour les salariés seniors. Une partie de sa retraite en plus de son salaire pourrait être versée aux salariés qui auraient atteint ses droits à la retraite et décideraient de rester au travail. Et puis, le projet de loi de simplification est en revanche sur la pente glissante. Le texte qui abroge notamment les zones à faible émission, les fameuses ZFE, pourrait être rejeté aujourd'hui à l'Assemblée puisque les macronistes projettent de voter contre. Un peu de culture, Europe 1 vous emmène ce matin dans l'ancien parloir des nonnes du couvent de Sainte-Cécile. C'est à Grenoble. Le cabinet Rembrandt y propose l'une des plus belles collections de gravures du maître néerlandais. 9 nouvelles gravures jamais présentées au public y sont désormais exposées, Sébastien Bordenave.
Dès l'entrée, c'est Rembrandt lui-même qui répond à toutes vos questions sur sa vie, ses œuvres. Ce n'est pas un homonyme, mais un hologramme doté d'intelligence artificielle. Le thème de cette nouvelle exposition, c'est le bestiaire, la représentation animale dans la gravure de Rembrandt. Avant, les bêtes étaient un décor, une nature morte. L'art néerlandais du XVIIe siècle en général et Rembrandt en majesté vont en faire un sujet. Et comme dans l'iconographie chrétienne, l'animal va même parfois devenir l'attribut d'un saint ou faire directement référence à une parabole biblique. La technique utilisée est celle dite de l'eau forte, un outil pointu en acier qui grave sur une plaque de cuivre un motif, trempé ensuite dans de l'acide appelé eau forte, un procédé qui permet de multiplier les œuvres, donc de gagner plus d'argent. Il en fallait, Rembrandt était très riche, collectionneur d'art, notamment d'œuvres de Michel-Ange et de Raphaël. Il a fini sa vie ruinée.
Sébastien Bordenave.
Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, Rachida Dati, la ministre de la Culture, est l'invitée de Sonia Mabrouk. 8h10, bon réveil.
7h, 9h,
Europe 1 matin.
Pourquoi Banque Populaire est la première banque des entreprises ?
Développer mon entreprise et maîtriser son impact sur la société et l'environnement, c'est un vrai défi. Alors Paul, mon conseiller Banque Populaire, m'a parlé du prêt à impact. Si mon entreprise atteint ses objectifs de RSE, elle peut bénéficier d'un remboursement d'intérêt.
Soutenir nos entreprises clients dans leur transition durable, c'est ça être la première banque des entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous. Sous réserve d'acceptation par votre Banque Populaire. Étude Kantar PME PMI 2023, 14 Banques Populaires, première banque des PME.
Qu'est-ce qui vous fait aimer le camping ? C'est de pouvoir faire la grasse mat sous la tente. Après, quand on dit grasse mat, c'est sans compter le réveil de vos enfants qui, dès 7h du matin, décident de prendre votre matelas pour un trampoline. Chez Decathlon, on parie que vous allez adorer la technologie Fresh and Black de notre tente qui garde la fraîcheur et l'obscurité. Cette semaine, la tente Arpenaz 5 places 2 chambres est à 279,99€ au lieu de 349,99€, soit 70€ de remise.
Mon client, quand il a vu qu'il avait une grosse fissure sur son pare-brise, il voulait vite le faire remplacer. Faites comme lui. Un problème avec votre pare-brise, pensez tout de suite à Carglass. Avec notre plus grand stock de vitrage Carglass d'Europe, votre pare-brise, il est vite envoyé dans le centre que vous avez choisi. Et jusqu'au 20 juin, pour une réparation d'impact ou un remplacement de pare-brise, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Alors, prenez rendez-vous tout de suite sur Carglass.fr. N'oubliez pas, c'est seulement chez Carglass.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur Carglass.fr.
Toutes vos émissions préférées en replay
sont disponibles sur l'application Europe 1.
À tous ceux qui se retrouvent entre potes quand c'est soir de match, mais faites pas trop de bruit, il y en a peut-être qui dort à côté.
Et à ceux qui vont devoir apprendre à crier sur l'arbitre, mais en chuchotant.
Mais il y a faute là ! Carton, monsieur l'arbitre, carton, monsieur l'arbitre !
Oh. Intermarché vous offre 80% en avantage carte sur tous les produits de la marque Pampers. Et c'est aussi sur notre appli.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 22 juin, des 30€ d'achat et dans la limite de 40€, modalité sur intermarché.com.
7h, 9h,
Europe 1 matin.
Bonjour, bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes la ministre de la Culture, maire du 7e arrondissement de Paris. Il y a beaucoup de sujets abordés avec vous ce matin. Et tout d'abord, bien sûr, l'actualité brûlante sur la scène internationale et ce qui se passe entre l'Iran et Israël. À l'instant, le président américain Donald Trump, Madame Dati, reproche à Emmanuel Macron de n'avoir rien compris sur ses intentions au sujet de ce qui se passe entre l'Iran et Israël et sur son départ prématuré au G7, plus largement d'ailleurs. C'est une diplomatie en zigzag qui est reprochée au président français. Que répondez-vous à cela ?
Tout d'abord, je vais vous dire, Madame Mabrouk, que M. Trump donne des leçons sur la cohérence. Il pourrait se l'appliquer. On a vu sur les politiques tarifaires, sur les droits de douane, les revirements auxquels on a pu assister depuis qu'il a été élu. Simplement, vous êtes assez. Vous connaissez très bien la politique internationale et pour cause, parce que vous avez aussi une passion pour cette région qui est aujourd'hui quand même très enflammée et même plus que ça, très inflammable. Mais la diplomatie, ça n'a jamais été une ligne droite. Depuis toujours, si la diplomatie était une ligne droite, Saddam Hussein serait encore au pouvoir, nous serions encore les amis de Bachar el-Assad, nous recevrions M. Poutine en grande pompe. Donc la diplomatie, elle s'adapte à la situation. La situation d'aujourd'hui, j'allais dire, n'est pas celle d'il y a 5 ans, elle n'est pas celle d'il y a 6 mois, elle n'est pas celle d'il y a 2 ans, elle n'est pas celle d'il y a 5 ans. Donc nous sommes obligés de nous adapter à la situation internationale qui est quand même extrêmement fracturée. Donc aujourd'hui, la diplomatie, elle s'adapte à la situation. Mais nous ne sommes pas non plus des va-t-en-guerre. C'est pour ça, d'ailleurs, en responsabilité, le président de la République a appelé à une désescalade, a appelé à ce que, évidemment, tous les responsables de cette région se mettent autour de la table pour reprendre aussi des négociations, notamment s'agissant du fameux traité sur le nucléaire.
Bien sûr, mais s'adapter ou se renier, Rachida Dati,
parce que Emmanuel... Mais se renier sur quoi ?
Par exemple, Benjamin Netanyahu n'exclut pas d'éliminer le guide Khamenei. Et Emmanuel Macron dit que faire tomber un régime a toujours eu des conséquences néfastes. Est-ce qu'il soutient
Est-ce que ça n'est pas une réalité ? Qu'est-il sorti de la guerre en Irak ?
Daesh ?
Un retrait, voilà. Qu'est-il sorti de ce qui se passe en Syrie ? La même chose. Qu'est-il sorti, rappelez-vous, quand on a eu le GIA, le FIS en Algérie ? Voilà, quand on a voulu évidemment intervenir. Donc moi, je vais vous dire, il faut être responsable, il faut garder son sang-froid. Et moi, je vais vous dire, pardon pour la comparaison qui est peut-être un peu légère compte tenu de la situation, mais c'est comme quand il y a un match de football, on dit il y a 65 millions de sélectionneurs. Et bien de la même manière, j'ai l'impression, alors que la situation est tragique, tragique, ce qui se passe dans cette région, et vous et moi, Madame Benbrouck, on se connaît depuis assez longtemps, pour savoir que ce qui se passe dans cette région... On s'y intéresse depuis toujours. Nous étions adolescentes et les conflits qui se passent dans cette région du monde, notamment au Moyen-Orient, ça a toujours percuté aussi nos vies,
effectivement,
aussi nos histoires. Mais... Oui, ça fait plus de 50 ans. Et donc, il faut garder son sang-froid.
Alors, garder son sang-froid, est-ce que le gouvernement français le fait ?
Et quand, c'est comme pour les sélectionneurs du football, j'ai l'impression que tout le monde est ministre des Affaires étrangères.
6 millions d'experts géopolitiques.
Voilà, exactement. Mais on est passé, rappelez-vous, on avait des plateaux s'agissant du Covid. Ceux qui étaient experts du Covid étaient devenus des experts aussi en lutte contre le terrorisme, en lutte contre la délinquance. Non, il faut, c'est trop grave.
J'entends.
Pour que chacun dise n'importe quoi.
Par exemple,
pour que chacun instrumentalise ce qui se passe dans cette région.
Explique-moi ce qui s'est passé, par exemple, au salon du Bourget. Le gouvernement français a décidé de fermer des stands d'exposants israéliens au salon du Bourget, ou plus précisément de couvrir certains d'entre eux en raison, dit l'exécutif, de l'exposition d'armes offensives. Franchement, ça ne s'appelle pas un soutien ferme à un allié.
Il y avait un accord entre Israël et la France pour que les exposants israéliens, dans le cadre de ce salon, n'exposent pas des armes offensives. Sur les 9 sociétés qui exposent, 5 n'ont pas respecté ce cadre. Mais je veux dire, je regardais hier soir si...
C'est pas ce discriminatoire type... de non, faire à l'égard d'Israël.
Non, ce type d'accord, ce type, j'allais dire, de critères, a déjà existé par le passé. En 1981, François Mitterrand a demandé à ce que nos avions français, nos hélicoptères français... qui était exposé soit désarmé. Donc ce type de demande a toujours existé. Donc il n'y a rien de choquant, il y avait un cadre, il n'a pas été respecté. Donc voilà.
Venons-en à l'actualité en France. Rachida Dati, au défi du gouvernement, bientôt les vôtres, évidemment, on va en parler. C'est la fin du conclave sur les retraites aujourd'hui. François Bayrou espère, contre toute attente, arracher in fine un accord et donc sauver sa tête. Tenir, Rachida Dati, ne pas être censuré, mais pour faire quoi ? Est-ce que c'est la prime, l'éloge de l'immobilisme ?
On n'est pas dans l'immobilisme, on a un budget à faire.
Ça, c'est le vrai Himalaya à venir.
Non, mais François Bayrou est très, très, très actif et très engagé. Et c'est une demande du président de la République que la France ait un budget. Et effectivement, nous avons commencé d'ailleurs ces discussions budgétaires. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'avoir un budget. Tout l'enjeu, c'est de lutter contre l'insécurité.
On va en parler.
Tout l'enjeu, c'est aussi de poursuivre la réindustrialisation de la France qui a commencé depuis 2017, comme vous le savez. Plus d'un million d'emplois industriels.
Les chiffres sont quand même contrastés.
Non, les chiffres ne sont pas contrastés. Les faits sont têtus.
Tout va bien, Madame la Marquise.
Est-ce que j'ai dit ça ?
Réindustrialisation de la France.
Est-ce que j'ai dit ça ? Est-ce que j'ai dit ça? Je dis simplement, faut poursuivre la réindustrialisation de la France. C'est l'attractivité de la France qui est en jeu. Vous savez, depuis les sommets de Choose France, ce sont aussi les rapports qui l'indiquent. La France est devenue le pays européen le plus attractif pour les investissements étrangers, suite à Choose France. Également suite à Vivatech, qui est devenu l'épicentre, pour ne pas dire le centre, évidemment, de tout ce qui est la tech.
Un niveau jamais atteint, des déficits abyssaux.
Oui, mais attendez,
un Premier ministre qui n'arrive pas à boucler un budget, des oppositions qui ont le doigt sur la censure.
Est-ce que je nie cela? Je dis, dans un pays fracturé, dans un pays en proie au doute. Et d'ailleurs, ce pays en proie au doute s'est traduit comment? Par le résultat à l'Assemblée nationale. Et donc, les Français ont voulu cette Assemblée qui, aujourd'hui, n'a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité. Et donc, tout l'enjeu pour un Premier ministre, c'est d'obtenir une majorité pour faire adopter un budget pour la France. C'est l'avenir de la France. Et c'est l'avenir de la France, pas à court terme, pas à moyen terme, à très long terme. C'est de porter encore une vision et une ambition pour la France et répondre aux préoccupations des Français.
Défi du budget, Rachida Dati, oui. Défi de l'insécurité également. Bien Bruno sûr. Retailleau, le ministre de l'Intérieur qui dit vouloir en finir avec les barbares, mot qu'il a utilisé, vous le savez, suite aux violences après la victoire du PSG. Il dénonce une société sans repères. Il dit que ce sont les conséquences de mai 68 sur l'utilisation du mot barbare et sur le diagnostic. Vous le partagez avec le ministre de l'Intérieur?
Moi, je vais vous dire, et sans doute mes anciennes fonctions me rattrapent un peu, mais la réponse, elle n'est pas sémantique, elle est pénale. Moi, je vais vous dire.
La révolution pénale, qu'on attend toujours.
Non, attendez, depuis 2017, encore une fois, les chiffres sont là. J'ai regardé, avant de faire votre émission, comme je le fais toujours, je regarde, dans ce qui ne relève pas de mon portefeuille, la délinquance des mineurs a fortement baissé. Moi, et pour cause, lorsque j'étais garde des Sceaux, avec les peines planchers, avec des mesures, avec une vraie politique pénale, nous avions fait, sous Nicolas Sarkozy, fait baisser fortement la délinquance. La délinquance des mineurs a fortement baissé en France. Ce qui est effectivement, ce qui réside... Non, ce qui reste...
Est-ce que c'est audible aujourd'hui?
Ce sont
avec
les chiffres,
attaques au couteau, presque régulièrement.
Ce qui reste, ce qui persiste dans cette reste de délinquance des mineurs, c'est une délinquance de plus en plus violente. Qu'a demandé le Premier ministre, sous l'autorité du Président de la République, qu'a demandé le Premier ministre à Bruno Retailleau et à Gérald Darmanin de prendre toutes les mesures, y compris avec Elisabeth Borne, qui a tout un plan de prévention de la délinquance au sein des établissements scolaires. Pendant longtemps, c'était un sanctuaire, l'établissement scolaire. Aujourd'hui, ça l'est plus. Et donc, de prendre des mesures de prévention de cette délinquance, mais aussi de prendre des mesures répressives.
Alors, parlons-en.
Justement,
donne un exemple.
C'est ce qu'a demandé à Bruno Retailleau en termes de sécurité. C'est ce qu'a été demandé aussi à Gérald Darmanin de porter une politique pénale forte et ferme.
Et vous avez
c'est
vu
ce qu'il fait.
Vous avez vu ce qu'il fait. Vous avez vu ce qu'ont dit les premiers magistrats ou le plus haut, en tout cas magistrat. Il a dit mais non, vous faites du populisme anti-judiciaire.
C'est pas moi. Si c'est le terme qu'il a employé, c'est pas un terme que doit employer un haut magistrat. Voilà.
Pourtant, il l'a fait.
Donc, les procureurs sont là pour appliquer la politique pénale que demande le gouvernement. Les procureurs ne sont pas indépendants. Et pour avoir une politique de sécurité, une politique de répression, une politique pénale la même sur tout le territoire, les procureurs doivent évidemment mettre en œuvre la politique pénale souhaitée par le gouvernement.
C'est Soulard, qui est
du populisme. C'est de mettre en œuvre la politique pénale demandée par le gouvernement. Un exemple, lorsque j'étais garde des Sceaux, je demandais, lorsqu'il y avait ce type de violence, comme je le faisais pour les violences faites aux femmes, de demander des interpellations, des déferments et qu'à l'audience soient requis des mandats de dépôt. Voilà, c'est d'avoir une politique claire, ferme et qui porte évidemment ses fruits.
Alors au sujet, Rachida Dati, de l'un de vos dossiers brûlants, c'est la réforme de l'audiovisuel public. L'examen de la proposition de loi reprend là, c'est aujourd'hui, ce mardi, en commission des affaires culturelles et de l'éducation avant les débats parlementaires à la fin du mois. Alors les oppositions syndicales et politiques sont fortes. Elles vous reprochent notamment un assèchement financier du groupe de l'audiovisuel public, un démantèlement, et vous ne cessez de rappeler, Madame la Ministre, votre détermination. Qu'est-ce qui garantit que vous ne reculerez pas?
D'abord, l'examen a lieu aujourd'hui en commission. Et en commission, la dernière fois, nous avions obtenu le vote à une large majorité de la création de la holding exécutive. Et ça, c'est important aussi de le rappeler. C'est qu'il y a une majorité, évidemment, pour adopter cette réforme. Elle est attendue depuis des années. Vous savez, quand on a créé la fusion France 2, France 3, enfin la création de France Télévisions il y a 10 ans, est-ce que quelqu'un est revenu sur cette réforme? personne. Et d'ailleurs, depuis cette réforme, beaucoup disaient qu'il fallait aller plus loin. Et comment il fallait aller plus loin? C'est notamment par des coopérations, ce qu'on appelle par le bas, avec radio et télévision, et évidemment, qui pouvaient générer une réforme aussi par le haut, avec cette réforme de la gouvernance.
Tout le monde n'est pas convaincu,
et la coopération,
c'est un opposant, oui.
Non, mais attendez, la coopération a du mal à se faire. Et donc, il faut poser un cadre pour rassembler les forces de l'audiovisuel.
Est-ce que vous allez le pouvoir? Le député Emmanuel Grégoire a écrit au Premier ministre, d'ailleurs il sera aussi peut-être votre opposant au municipal à Paris,
voilà,
il appelle...
C'est bien de le faire remarquer.
À la transmission rapide de l'avis du Conseil d'État et il dénonce le manque de sérieux et l'insulte, dit-il, que vous faites à l'encontre du service
public.
C'est
Emmanuel Grégoire, comme certains députés de gauche, s'agissant de ma personne, ils se permettent tout. L'injure, les attaques en dessous de la ceinture,
personne,
et donc
parce que
le mensonge, ou du trumpisme, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, l'audiovisuel public, aujourd'hui, il y a une désaffection des jeunes et des classes populaires vis-à-vis de l'audiovisuel public. L'audiovisuel public, c'est près de 4 milliards d'euros. Mmh. C'est de l'argent public. Cet argent public destiné à l'audiovisuel public doit intéresser l'ensemble des Français et sur tout le territoire. Aujourd'hui, les forces de l'audiovisuel public est totalement dispersée.
Vous dites l'ensemble des Français. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que les opinions de droite sont représentées par des experts?
Justement,
par des
les mêmes qui font des leçons de pluralisme devraient se les appliquer. Et donc, l'audiovisuel public, payé par l'ensemble des Français, doit s'intéresser à tous les Français. Aujourd'hui, les usages ont changé. 62% des Français s'informent sur les réseaux sociaux. Ça n'est même plus la concurrence, ce n'est plus les chaînes traditionnelles. Ce sont les plateformes et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il faut regrouper ses forces avec les forces de l'audiovisuel public et il faut évidemment une organisation cohérente. C'est tout d'ailleurs les conclusions que je souhaite mettre en œuvre.
L'enjeu de la holding.
C'est évidemment c'est les conclusions du rapport fait par Laurence Bloch,
l'ancienne
de France Inter, qui était aussi à Radio France, et qui effectivement qui est une vraie spécialiste, une vraie professionnelle.
Rapport très attendu.
Très attendu.
Vous venez
de
me dire...
La conclusion de ce rapport dit, évidemment, cette réforme de l'audiovisuel public ne peut plus, le statu quo n'est plus une option. La conclusion de ce rapport, il faut réformer cet audiovisuel public. D'ailleurs, moi je me suis engagée à le réformer, à regrouper ses forces dans le cadre de cette holding. Et d'ailleurs, lorsque j'ai pris mes fonctions, je m'étais engagée à sanctuariser le financement de l'audiovisuel public. C'est ce que j'ai fait, puisque depuis le 1er janvier 2025, l'audiovisuel public a un financement dédié et sanctuarisé.
À ma question sur la pluralité des opinions, vous me dites ceux qui en font des leçons devraient se les appliquer. Ça veut dire quoi, précisément?
Parfois, ceux qui vous donnent des leçons de pluralisme ne se l'appliquent pas. Voilà. C'est toujours la même opinion, c'est toujours la même chose, la même pensée qui, évidemment, s'impose, devrait en tous les cas s'imposer à tous. Ça n'est pas comme ça. L'audiovisuel public, ça n'est pas ça. Bien au contraire, c'est de s'intéresser à tous les Français et de pouvoir aussi répondre à leurs demandes d'information. Dans un contexte quand même qui est très fracturé, on voit les influences étrangères, on voit les ingérences, on voit la désinformation. Est-il normal que les adolescents ne regardent plus ou n'écoutent plus l'audiovisuel public?
Alors, information voilà. Rajdati et investigation, tandis que Delphine Ernotte a été confortée à la tête de France Télévisions. Récemment, Complément d'enquête vous a consacré un portrait. Nous allons parler dans quelques instants du contenu, des accusations à votre endroit, mais sur l'émission en elle-même, Complément d'enquête ou encore Cache Investigation avec EZUC. Est-ce que vous considérez que c'est un travail d'investigation indépendant qu'il faut défendre? C'est la marque du service public ou est-ce que ce n'est pas le cas pour vous?
Moi, je vais vous dire, même si on me critique ou on m'attaque, je serai toujours pour la liberté de la presse. Toujours. Après, on peut s'interroger sur des méthodes, sur des cibles, toujours les mêmes cibles, toujours les mêmes méthodes, d'être très à charge. Est-ce que ça sert l'information? Est-ce que ça sert votre profession? Certains, peut-être, ça procède de la confusion. Si vous voulez enquêter, si vous voulez devenir procureur, c'est un métier. Je l'ai exercé. C'est un métier avec une formation et avec un objectif très clair. Ça n'est pas à charge. Ça n'est pas pour détruire des gens. Ça n'est pas pour discréditer des gens.
Ça rejoint un rôle de procureur aujourd'hui, notamment.
Mais moi, j'ai trop de respect pour le métier de procureur, pour qu'il n'y ait pas de confusion des genres. Et j'ai trop de respect pour votre profession, pour la profession de journaliste, pour qu'il n'y ait pas de confusion des genres. Et moi, ce qui parfois peut m'interroger, c'est la méthode et évidemment et la cible.
Voilà. Alors la cible, ça a été vous, en l'occurrence, puisque l'équipe de Complément d'enquête et les journalistes sont affirmés dans ce portrait avec des documents à l'appui que vous auriez reçu, Madame Dati, plus de 290 000 € d'honoraires non déclarés de la part de GDF à l'époque, lorsque vous étiez eurodéputée et que vous traitiez de la politique énergétique à Bruxelles. C'est faux, c'est totalement diffamatoire.
C'est totalement diffamatoire.
Avec des documents à l'appui.
Ces documents sont des documents tirés d'où? Ce sont des documents qui ont été examinés par la justice. Ils ont été tirés de la comptabilité. De la comptabilité d'un cabinet d'avocats et de ma comptabilité. Tout ça est déclaré, est très au clair. On veut toujours attaquer ma probité, mon honnêteté, jamais. Tout ce que j'ai, je l'ai gagné. Je ne suis pas la seule élue, députée, comme avocate. Moi, j'aimerais que les investigations qui portent sur mon activité ancienne d'avocate, ce soit la même pour les autres. Beaucoup d'élus, beaucoup de députés, beaucoup de candidats à des élections suprêmes sont également avocats. Est-ce qu'une seule fois on s'est intéressé
selon
à leur activité.
Selon vous, pourquoi c'est vous? Pourquoi c'est vous la cible? Pourquoi les méthodes
j'aimerais
vous dénoncez,
qu'on me juge,
à vous.
J'aimerais qu'on me juge sur mon bilan, d'une manière générale. On m'a toujours attaqué sur mes compétences et ma légitimité. Toujours la même chose. Lorsque j'étais garde des Sceaux, j'ai subi les mêmes attaques en illégitimité et des attaques sur les compétences. Lorsque j'ai porté la réforme de la carte judiciaire, qui était attendue depuis 25 ans, lorsque j'ai porté la révision constitutionnelle de 2008, qui était une révision d'ampleur de la Constitution, qui encadrait les pouvoirs du président, qui donnait plus de pouvoir au Parlement et plus de droits aux citoyens. C'est moi qui ai instauré et créé toutes ces autorités indépendantes de contrôle des lieux de privation de liberté.
Ça ne vous fragilise pas politiquement,
Rachida Dati,
les honoraires, mis en examen dans l'affaire Carlos Ghosn.
Mais moi, je vais vous répondre très simplement. Et j'ai également créé le défenseur des droits. Je suis très fière de cela. Et d'ailleurs, lorsque j'ai mené ces réformes, est-ce qu'elles ont été remises en cause depuis? Jamais. D'ailleurs, même la Cour des comptes m'a attribué un satisfecit, notamment sur la réforme de la carte judiciaire.
Mais
et personne n'en parle.
Est-ce que ça ne vous fragilise pas?
Mais qu'est-ce que ça fragilise?
Honoraire de GDF, mais, oublie de déclarer plusieurs centaines de milliers de bijoux à la haute autorité de la transparence.
Moi, madame, vous trouvez ça digne qu'on s'attaque à ma vie privée, qu'on fouille des choses, que par exemple on s'attaque à ma vie intime. Ma vie intime, je l'ai toujours préservée et protégée. Et on se sert de cela. J'ai toujours été, toutes mes déclarations ont été scannées. Je n'ai jamais été reprise sur aucune de mes déclarations. Ce sont des revenus du travail. Et ce ne sont pas des revenus bruts ou nets, ce sont des honoraires. Les honoraires, il y a des charges qui sont prélevées. Et donc, tout ce qui est indiqué, tout a été déclaré. Je n'ai jamais été ni reprise fiscalement, ni même par la haute autorité. Tout ça a été mis en transparence. S'agissant de l'affaire Renault, la justice, évidemment, est toujours en cours. Je suis l'objet d'un règlement de compte entre M. Sénard, l'actuel patron de Renault. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le directeur général est parti, parce que, évidemment, ça n'est pas lié uniquement à une volonté de ce départ. Je suis prise en otage entre M. Sénard et Carlos Ghosn. Voilà. Mais de toute façon, la vérité.
Donc, tout ça est un feu nourri, différents milieux, différents
justement,
domaines.
Justement, ça gêne certains que je ne sois jamais victimisée. Je ne suis pas une victime. Et je ne le serai jamais. Et vous savez tout à fait de quoi je parle. Toujours les mêmes profils. Est-ce qu'on accepte aujourd'hui qu'on change de conditions sociales? Est-ce que la promotion sociale, c'est toujours pour les mêmes?
Vous avez vu que certains en profitent pour fragiliser votre ambition pour la conquête de Paris au municipal. Alors, dans cette émission, un deal aurait été conclu entre vous et le président. Alors ça a beaucoup, soulevé des interrogations dans le bloc central, Rachida Dati, et on voit, par exemple, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal qui appelle à trouver un autre candidat pour Paris. On voit également du côté d'Edouard Philippe, qu'un candidat est en train d'émerger également.
Je ne vais quand même pas, moi qui suis pour la démocratie, je ne vais quand même pas critiquer ceux qui veulent se présenter.
Il a eu lieu ou pas?
Non, mais de quoi parlons-nous?
Deal entre vous et le président de la République. Vous entrez au gouvernement, il vous soutient au municipal à Paris. Mais vous avez le soutien présidentiel.
Vous pensez que lorsque le président de la République me propose d'être ministre de la Culture, il me dit je vous propose d'être ministre de la Culture.
Pourquoi on pourrait l'exclure?
Je vous interroge comme ça, en dehors, on s'extrait.
La politique est faite de beaucoup d'accords et de deals, madame.
Mais bien sûr, et alors?
Et alors, est-ce que c'est le cas?
Est-ce que tout cela est écœurant et interdit? Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est pénal?
Pas du tout.
La politique, ce sont des accords, ce sont des compromis, ce sont des discussions.
Donc, il y en a eu un. Hein.
Non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement, lorsque le président de la République me propose d'être ministre de la Culture, vous savez pourquoi? C'est pour contribuer et favoriser la réduction des inégalités, notamment par la culture. Mais aussi, il m'a demandé à ce que la culture soit accessible pour le plus grand nombre sur tout le territoire. Première mesure que j'ai prise, préservation, protection de notre patrimoine historique, mais aussi le plan ruralité. Parce que la ruralité,
et puis vous êtes une personnalité qu'il a voulu avoir dans son gouvernement.
C'est 22 millions de nos concitoyens en ruralité qui doivent avoir aussi les mêmes droits que tous les autres habitants et d'autres citoyens sur le territoire national. Voilà, donc ma mission est très claire. Je la mène avec beaucoup de ténacité et d'énergie. Vous savez, avant qu'on m'affaiblisse, je ne crois pas que... Depuis 2007,
mais ça vient
c'est,
de
toujours,
tout
c'est toujours bien tenté. Et j'allais dire...
On entend.
J'allais
votre
dire
résilience, votre
encore raté.
Donc, voilà. Vous avez vu même pour la réforme PLM qui modifie les règles du scrutin Paris-Lyon-Marseille, sur laquelle quand même vous misez pour la conquête de Paris, le Sénat, il va serrer la vis.
Le PLM, cette loi PLM, c'est quoi? C'est de corriger une anomalie démocratique. C'est juste du bon sens. C'est Paris-Lyon-Marseille. Ils n'ont pas les mêmes droits démocratiques que les autres citoyens français. C'est de dire, ils veulent, et toutes les études d'opinion le confirment, près de 90% des habitants de Lyon, Paris, Marseille veulent voter directement pour leur maire. Ils veulent avoir le choix éclairé de leur maire. Et donc, 90% des études d'opinion le confirment. C'est une anomalie démocratique que nous devons évidemment corriger. Aujourd'hui, cette réforme a été amplement, très largement votée à l'Assemblée. Certains au Sénat...
Le premier d'entre eux, le président du Sénat.
D'accord, j'ai eu un échange avec lui. J'ai eu un échange.
Il n'a pas changé d'avis ?
Non, je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute Gérard, je vais te dire, soit vous voulez qu'on gagne Paris, et soit vous voulez corriger cette anomalie démocratique, soit vous voulez préserver les mandats de quelques-uns. De quelques élus. Voilà. Et donc, il en a convenu. Et donc, c'est pour ça que là, nous sommes très en attente et de manière assez optimiste pour justement le débat qui aura lieu, l'examen qui aura lieu le 24 juin prochain.
J'ai deux questions importantes pour conclure, Rachida Dati. L'une, évidemment, qui concerne votre domaine sur les vitraux de Notre-Dame. Je sais que ça intéresse beaucoup nos auditeurs et téléspectateurs. La Commission nationale du patrimoine a acté de la volonté de l'exécutif de remplacer les vitraux, de ce geste contemporain. Et vous avez dit que c'était un feu vert. C'est pas un feu vert. Non, ils sont contre.
Non. Cette commission qui s'est réunie, qu'a-t-elle acté? Elle a acté à l'unanimité que les vitraux qui sont aujourd'hui installés, seront déposés, restaurés et exposés. Voilà. Et donc, quand ils seront déposés, restaurés et exposés, les nouveaux vitraux qui seront faits par l'artiste Madame Tabouret seront évidemment montés à leur place.
Au sujet de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, c'est une conséquence de sa condamnation. Il a perdu sa Légion d'honneur. Il a été exclu de l'Ordre national du mérite. Ça a beaucoup... provoqué beaucoup de réactions dans sa famille politique plus large. Vous êtes un soutien de toujours,
je suis
quelqu'un de
soutien,
proche.
Je suis aussi loyal, comme je le suis avec Emmanuel Macron, le président de la République. Moi, j'ai beaucoup d'affection, c'est beaucoup plus que ça.
Ça vous a choqué?
On a un lien.
On retire sa Légion d'honneur.
Pourquoi ça m'a choqué? Parce que les gens font le parallèle avec le maréchal Pétain. Là, effectivement, je trouve qu'il y a de l'indignité. Moi, vous savez, c'est un homme qui s'est engagé pour la France. Moi, je disais toujours, c'est la France qui coule dans ses veines. Et donc, on oublie un épisode majeur. Vous et moi, nous avons des enfants, et des enfants en bas âge. Il a sauvé plus d'une vingtaine d'enfants lors de la prise d'otage des enfants à Neuilly. Pour cette raison, d'ailleurs, dans l'exposé, lorsque...
La meilleure Légion d'honneur pour sa décoration, pour vous.
Évidemment, il a sauvé ses enfants. Il a fait preuve d'un acte de courage, comme il a fait preuve d'acte de courage lorsqu'il a été élu président de la République de manière majoritaire. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les institutions et les fonctions qu'occupent ces femmes et ces hommes. Vous savez, être président de la République, c'est pas n'importe quoi. Moi, je considère que les institutions sont de plus en plus désacralisées. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces institutions, et notamment cette fonction suprême, que je considère encore un peu sacré.
On note qu'on peut être sarkozyste et macroniste. Ce serait presque un sujet du bac philo. Hein.
Non, mais vous savez...
Si vous deviez plancher, vous avez 4 heures, Madame la ministre.
Madame Mabrouk, c'est pas... Encore une fois, on se connaît. Donc, c'est pas à vous que je veux dire ça. Je vous ai entendu aussi dans des interviews très personnelles. Il y a quelque chose qui me frappe chez vous, c'est la reconnaissance et la loyauté. Ça fait partie de ma vie. Vous savez, je ne serais pas en face de vous aujourd'hui si je n'avais pas eu de la reconnaissance et de la loyauté pour ceux qui m'ont tendu la main. Alba Chalandon, Jean-Luc Lagardère, Simone Veil, Claude Bébéard, Marceau Long, Nicolas Sarkozy. et aujourd'hui Emmanuel Macron. J'ai de la reconnaissance et de la loyauté. Voilà, ça fait partie de mon éducation, ça fait partie de ma vie. Et donc, moi j'ai beaucoup plus que de la loyauté et de la reconnaissance pour Nicolas Sarkozy, j'ai de la même chose pour Emmanuel Macron. C'est ce qui fait aussi et mon éducation et mes principes de vie.
Sur ce point, vous aurez sûrement une très bonne note au bac philo en répondant ainsi. Merci Rachida Dati, c'était votre grande interview. Je vous dis à bientôt.
Merci Rachida Dati, merci Sonia Mabrouk. Dans un instant sur Europe 1, vos signatures du mardi, à commencer par Eugénie Bastier. À tout de suite.
Europe 1.
Bonjour, c'est Christophe Ondonat.
On de la raconte.
En août 2018, à Frederick, dans le Colorado, Shannon Watts et ses deux petites filles de 3 et 4 ans disparaissent. Son mari, Chris, est vite dans le viseur. Il affirme qu'après une dispute conjugale, Shannon et les deux gamines ont trouvé refuge chez une amie, mais il est incapable de dire laquelle.
On de la traconte.
À tout à l'heure, de 14h à 15h sur Europe 1.
Donc là, si je fais un entretien chez vous, ça veut dire que...
Ça veut dire que vous repartez avec un an de garantie Toyota Relax.
Allez.
Un entretien est égal à un an de garantie, tout simplement. Même si vous n'êtes jamais venu chez nous.
Oh là là, 1 égale 1. Avec des maths comme ça, j'aurais eu 20 au bac.
Eh oui, un seul entretien dans notre réseau agréé Toyota suffit pour bénéficier d'un an de garantie Toyota Relax, même si votre véhicule est d'occasion.
Vous êtes fort en maths?
Ça va.
Toyota. Valable à l'issue de la garantie constructeur jusqu'au 10 ans ou 185 000 km de votre Toyota au premier dé de terme matin, voire conditions sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Claire, ce qu'elle aime dans la vie, c'est le verre et ce qui est offert. En fait, ce qu'elle aime dans la vie, c'est nous, Engie. Et oui, Claire, en ce moment et jusqu'au 12 septembre 2025, Engie vous offre 100€ pour la souscription d'un nouveau contrat d'électricité ELEC référence 3 ans. Et bien sûr, c'est une électricité verte, certifiée à 100% par des garanties d'origine renouvelable. C'est pas super, ça, Claire? Appelez le 3443. Service et appel gratuit. Voir les offres électricité éligibles et conditions de l'offre sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Cofidis présente projet numéro 7, le projet qui reste sur le carreau.
Oh non, vous en avez assez des rêves qui se brisent. Avec Cofidis, c'est simple pour financer vos projets. Jusqu'au 30 juin, Cofidis propose un prêt personnel à taux exceptionnel. Et c'est pendant 2 semaines seulement sur cofidis.fr. Cofidis. Le crédit qui fait la différence. Délai légal de rétractation.
Carrefour. Vous me dites, les cerises? Alors, en clafoutis, en tartelettes, en sorbet ou simplement nature? J'adore. Eh bien, je vous réponds que les cerises rouges Origine France sont à 4,99€ le kilo. Alors rendez-vous jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur votre appli Carrefour. Retrouvons tous le goût avec Act for Food. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Catégorie 1, détails sur carrefour.fr.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Voici venues vos signatures Europe 1 avec au programme dans quelques minutes la revue de presse d'Olivier Delagarde. Bonjour Olivier.
Bonjour.
À la une des journaux ce matin.
Eh bien, on essaiera de mesurer quelles conséquences ces frappes sur l'Iran ou sur la vie politique française. On parlera d'un conclave qui pourrait bien sauver la peau de François Bayrou et du 80e anniversaire du cannibale.
Allez, à tout de suite. Mais d'abord, Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie.
Bonjour à tous.
Vous souhaitez revenir ce matin, Eugénie, sur la proposition portée par Gabriel Attal et des députés Renaissance de nommer Alfred Dreyfus général de brigade à titre posthume. Proposition qui semble l'objet d'un bras de fer entre l'Élysée et le Parlement.
Oui, c'était le 2 juin dernier, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité cette proposition de loi portée par Gabriel Attal qui permet cette promotion posthume à Alfred Dreyfus, dont on sait évidemment la tragique histoire. Or, selon le Canard enchaîné de la semaine dernière, le président de la République, Emmanuel Macron, ferait tout pour ensabler le texte au Sénat, et ce pour ne pas contrarier les militaires qui y seraient hostiles. Alors, le président avait déjà, il y a quelques années, émis des réserves sur une telle réparation. Il craignait d'ouvrir la boîte de Pandore des réhabilitations ou dégradations posthumes. Voilà ce qu'il disait. « J'aurai demain des demandes de tel ou tel pour dégrader des généraux qui ont participé à la colonisation ou à telle ou telle guerre. » Le grand risque, c'est de revisiter la hiérarchie militaire ou l'histoire avec le regard d'aujourd'hui. Mmh. Alors, est-ce une inquiétude sincère du président de la République ou veut-il simplement couper l'herbe sous le pied de son rival Gabriel Attal? Reste que ces joutes politiciennes sur l'honneur bafoué d'un homme ne sont guère glorieuses.
Mais sur le fond, Eugénie, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée que de réparer par la loi cette injustice qui a privé Alfred Dreyfus de mener la carrière militaire qu'il aurait sans doute méritée?
Je n'étais qu'un officier d'artillerie, qu'une tragique erreur a empêché de suivre son chemin, avait dit le capitaine Dreyfus à son petit-fils. Patriote, fidèle à la République et à la France, malgré les avanies subies, Dreyfus est certainement un modèle pour notre époque.
Mais hélas, je pense, comme Emmanuel Macron, qu'une telle initiative ouvrirait une brèche dans laquelle s'engouffreraient toutes les demandes. Pourquoi, par exemple, ne pas donner aussi le bâton de maréchal à titre posthume au général Castelnau, qui en a été privé pour ses opinions catholiques par la même République qui avait réhabilité Dreyfus ? Mais le danger le plus grave, c'est de blanchir ceux qui aujourd'hui participent à l'antisémitisme. Quand je vois que la France insoumise et ses députés David Guiraud, Thomas Portes, Louis Boyard ont voté ce texte de Gabriel Attal des deux mains, tout en appartenant à un parti qui ne cesse de faire de la nouvelle judéophobie une rente électorale, on voit bien que cet unanimisme de façade ne fait que masquer les compromissions présentes. Il est plus facile de combattre l'antisémitisme du passé que de lutter contre celui du présent. Il est plus simple d'aller compenser l'impuissance politique par la surenchère mémorielle.
Alors, cette initiative de vouloir élever à titre posthume Dreyfus au grade de général, est-ce que ça n'est pas symptomatique d'une tendance aussi du politique à surinvestir les enjeux mémoriels ?
Oui, tout à fait. Vous savez que l'historien Pierre Nora, qui est disparu il y a quelques jours, avait bien documenté ce passage de l'histoire à la mémoire. Il s'insurgeait contre l'habitude envahissante des politiques de dire l'histoire. Il avait critiqué aussi l'unanimisme compensatoire se donnant en spectacle, ce sont ces mots, qui se donnaient à voir par exemple lors des commémorations médiatiques de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette mémorialite a culminé avec Emmanuel Macron qui n'a cessé de jalonner son mandat de grands rendez-vous mémoriels, parfois très réussis au demeurant, mais qui semble trahir par l'obsession du passé l'incapacité à répondre efficacement aux défis d'aujourd'hui. Tout commence en mystique et se dégrade en politique, disait Charles Péguy à propos de l'affaire Dreyfus. L'écrivain déplorait que le noble et beau combat de Dreyfusard pour l'innocence d'un homme ait été dévoyé en combine politicienne sous la Troisième République. Aujourd'hui encore, la mémoire d'Alfred Dreyfus est utilisée pour combler le vide parlementaire et mieux masquer les démissions du présent.
Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. Dans un instant, la revue de presse d'Olivier Delagarde, 8h44.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Pourquoi Banque Populaire est la première banque des entreprises ?
Développer mon entreprise et maîtriser son impact sur la société et l'environnement, c'est un vrai défi. Alors Paul, mon conseiller Banque Populaire, m'a parlé du prêt à impact. Si mon entreprise atteint ses objectifs de RSE, elle peut bénéficier d'un remboursement d'intérêt.
Soutenir nos entreprises clientes dans leur transition durable, c'est ça être la première banque des entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous. Sous réserve d'acceptation par votre Banque Populaire. Étude Kantar PME PMI 2023, 14 banques populaires, première banque des PME.
Bonjour, je suis Laurence de Carglass. On fait quoi en cas d'impact sur son pare-brise ? On appelle Carglass au 3044. Et si on a deux impacts, c'est toujours Carglass au 3044. C'est simple. Une urgence sur votre pare-brise ? Allô Carglass au 3044. Et pour prendre rendez-vous rapidement chez Carglass, c'est le 3044. Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
Quand votre déodorant à l'agonie vous dit dans un dernier soupir
« Je fais de mon mieux, mais je suis vraiment sur la faim. »
Pas de panique, votre nouveau déodorant est déjà en route. Il arrive demain avec Prime. Produit du quotidien, livré en un clin d'œil, c'est sur Prime. Sous réserve du respect des heures limites de commande.
Ah, eh ben j'ai fait le tri dans mes bijoux en or. Je les ai revendus chez Or en Cash. Et voilà, ça paye les soins du surf.
Revendez vos bijoux et profitez pleinement de votre été avec Or en Cash.
Or en Cash, achète cash.
Transaction réservée aux majeurs et soumise à réglementation. Paiement par chèque ou virement.
Europe 1 matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
8h46. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, avec des Iraniens ce matin qui ont vécu les bombardements en direct.
Le son que vous entendez à l'instant, c'est le bruit de l'agresseur à notre patrie. Les images que vous voyez... Mais la présentatrice en tchador ne peut pas aller plus loin. Une explosion retentit et elle fuit en direct. Le plafond du studio s'écroule derrière la caméra. Un homme s'écrie « Dieu est grand ». L'écran se fige. Israël vient de bombarder les locaux de la télévision d'État iranienne. C'était hier, raconte Robin Corda et Ariane Rioux du Parisien aujourd'hui en France. Un bombardement parmi beaucoup d'autres, mais évidemment peut-être plus symbolique et plus visible que les autres. 4 jours après le début de l'offensive israélienne, les journaux ont encore évidemment les yeux rivés sur les enjeux de ce conflit. Dans la foultitude de très bons papiers que vous lirez ce matin, signalons peut-être l'interview de Pierre Razou à accorder aux Échos. Les frappes israéliennes vont se poursuivre puisque l'Iran n'a plus les moyens militaires de s'opposer aux raids israéliens, explique ce grand spécialiste du Moyen-Orient. Mais la vraie question, poursuit-il, est de savoir si Benjamin Netanyahou va faire tomber le régime des Mollahs ou bien se contenter de l'affaiblir tout en le préservant. L'idée pour lui serait, pour des raisons de politique intérieure, de conserver un ennemi qui justifie la poursuite de sa guerre.
Venons-en aux conséquences de cette guerre en France.
Oui, parce que là aussi, elle a des effets de politique intérieure importants. Le premier signal d'opinion, c'est de diviser un peu plus LFI du reste de la gauche, indique Antoine Oberdorf. Après s'être déchiré pendant des mois sur Gaza, voilà le PS et les Insoumis, ennemis héréditaires, projetés dans la poudrière du Moyen-Orient. Pour Jean-Luc Mélenchon, la haine de l'Iran relèverait du catéchisme islamophobe de Samuel Huntington et des esprits faibles comme celui de Bruno Retailleau. Fermez les guillemets. Le journal rappelle toutefois que le leader insoumis n'a pas toujours été sur cette ligne. En 2012, rappelle-t-il, il déclarait que le régime iranien posait une question importante à la civilisation humaine. « Moi, je n'ai pas peur de dire, » déclarait-il alors, « un régime théocratique est toujours un danger pour l'humanité. » Peut-être à l'époque avait-il un esprit faible lui aussi.
L'autre victime politique française, Olivier, c'est Emmanuel Macron.
Eh bien oui, parce que pour la France, ça devait être l'un des grands moments diplomatiques de l'année, écrit Isabelle Lasserre du Figaro. Mais la conférence annoncée ce mardi à New York autour de la reconnaissance d'un État palestinien à l'initiative de la France et de l'Arabie Saoudite a été la première victime collatérale de la guerre. De toute façon, beaucoup considéraient qu'Emmanuel Macron avait mis la charrue avant les bœufs. Commentaire un brin sarcastique du ministre des Affaires étrangères palestinien Nasser Al-Khelaifi. La diplomatie française découvre depuis un mois que les choses sont beaucoup plus compliquées qu'elle ne le pensait. Et puis d'une manière générale, notre président n'aurait-il pas perdu un peu de sa vista? C'est en effet ce qui ressort d'un long article dans le même Figaro. Louis Osalter y explique que désormais, chaque fois qu'Emmanuel Macron intervient dans le débat national, ça se retourne contre lui. Et quand il se positionne au niveau international, il apparaît comme en décalage avec la réalité que vivent les Français. Lui est persuadé que l'histoire lui donnera raison, mais en attendant, résume le Figaro, Emmanuel Macron est passé de maître des horloges à président à contre-temps.
Pendant ce temps, que devient notre Premier ministre ?
Eh bien, il est entré en prière en espérant qu'une fumée blanche s'échappe de son conclave sur les retraites. C'est aujourd'hui, normalement, qu'il s'achève. Dans les échos, le président de la CGPME, Amir Reza Tofighi, se montre confiant sur une issue positive. L'accord pourrait être trouvé avec un maintien de l'âge de départ à 64 ans en échange d'une meilleure prise en compte de la pénibilité de certaines professions. Certaines professions, parmi lesquelles celle de Premier ministre, puisque l'accord, si accord il y a, devrait éviter une censure immédiate à François Bayrou, explique Cécile Cornudet dans le même journal. Les forces politiques sont trop dépréciées en ce moment pour se mettre en travers d'un accord social et François Bayrou pourrait sauver sa peau.
Ce n'est pas un métier, Premier ministre, c'est une fonction. Cette question...
Un sacerdoce même, disons-le.
Cette question, Olivier, à présent, qui paye ?
Eh bien, c'est Nicolas. Oui, le projet de spectacle à 11 millions d'euros de Thomas Joly à Rouen, c'est Nicolas qui paie. Le saut en parachute de la présidente de l'Assemblée nationale, c'est Nicolas qui paie. Les distributeurs de crème solaire gratuits à Ouistreham, c'est encore Nicolas qui paie. Décidément, Nicolas est généreux, écrit Élix Lavoux du Figaro. Pourtant, ce Français altruiste n'existe pas. Ou plus exactement, il en existe plein. Sur les réseaux sociaux, Nicolas est devenu le porte-drapeau imaginaire d'une cohorte silencieuse, celle des trentenaires pressurés par le fisc pour financer à la fois les retraites, les aides sociales et les dépenses parfois fantaisistes des élus. Nicolas fait partie des 10% de Français qui payent 70% de l'impôt sur le revenu. Vous avez dit justice fiscale. Mais on va terminer par un anniversaire ce matin. Et si je vous dis qu'il a 80 ans aujourd'hui, si je vous dis que c'est l'un des Belges les plus connu au monde avec Magritte, Hergé et Brel, si je vous dis qu'on le surnommait le cannibale, et si je vous fais écouter ces quelques notes de musique qui datent du temps de sa splendeur, je pense que vous aurez compris que nous parlons d'Eddy
Merckx. Eh oui, bien sûr.
Quintuple vainqueur du Tour de France dans les années 60. C'est le Figaro qui célèbre cet anniversaire. Il gagnait tout. Et aujourd'hui encore en Belgique, il reste une référence un peu écrasante, raconte Jean-Julien Esvan, à tel point que Tom Boonen, après son sacre de champion du monde, lassé de la comparaison avec son glorieux aîné, avait détourné ce célèbre slogan, affirmant qu'il n'était ni Dieu, ni Merckx.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette,
nous il avait le coup de pédale un peu plus vigoureux qu'Yves Montand, ceci dit. Merci beaucoup.
C'était pas le même.
Olivier Delagarde, votre revue de presse chaque matin sur Europe 1. Tiens, dépêche de dernière minute. L'armée israélienne annonce avoir tué le plus haut gradé de l'armée iranienne proche de Khamenei. Voilà, donc les têtes continuent à tomber hein, sous les bombes israéliennes. Opérations militaires qui se poursuivent avec cet enjeu diplomatique. Les États-Unis vont-ils entrer dans la danse? Et je suppose, Pascal Praud vient d'entrer dans le studio d'Europe 1. Bonjour Pascal.
Bonjour.
On va en parler ce matin de 11h à 13h sur Europe 1.
Même si cette question, je ne peux pas y répondre. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a changé d'objectif. Israël souhaitait détruire le nucléaire iranien. Israël souhaite maintenant renverser un régime.
Ça vous paraît si évident que ça, Pascal ?
J'ai le sentiment, mais je vous renvoie la question, j'ai le sentiment que Netanyahou a dit qu'il voulait...
En tout cas, l'affaiblir. Le faire disparaître, c'est pas aussi sûr.
Vous savez, j'ai une lecture un peu, parce qu'effectivement, il a dit, Netanyahou, à la télévision américaine, qu'Ali Khamenei, sa mort, serait la fin de la guerre, achèverait la guerre. Mais est-ce qu'il dit ça
Quand on frappe une télévision, ce n'est pas, que je sache, une cible nucléaire.
Oui, mais c'est un cible stratégique, en revanche. C'est la propagande.
Alors, tout est stratégique, mais c'est pas là, quand on frappe des ministères, c'est pas... D'abord, tu ne peux pas atteindre sans doute le nucléaire. Visiblement, il est à 70 mètres sous terre.
Oui, c'est compliqué.
Très compliqué. Et nous disons ça de notre studio parisien, sans information quand même précise, tout ça.
Peut-être que le changement de régime, c'est l'alternative à l'impossibilité de détruire le programme nucléaire.
Faut être précautionneux, bien sûr, parce que savons-nous précisément du nucléaire iranien. Mais en revanche, il y a un autre débat, et ce qu'a dit Emmanuel Macron de ce point de vue-là est intéressant, c'est de dire, lorsqu'on veut déstabiliser un régime, c'est moins bien après qu'avant. Je crois que Rachida Dati allait dans ce sens-là tout à l'heure, elle a parlé de la Syrie, d'Irak, etc. La Libye, c'est encore autre chose, parce que quand t'es intervenu quelque part, ça s'est mal passé ensuite, mais quand t'es pas intervenu, ça s'est aussi mal passé ensuite. Et cet argument, il est intéressant à mettre en place.
Enfin, alors, ce que dit Emmanuel Macron,
et on peut l'entendre, c'est que c'est les peuples souverains qui décident d'éjecter celui qui est leur dictateur. C'était vrai en Russie, c'était vrai en Tunisie, etc. Donc tout le débat est là, et nous en parlerons tout à l'heure. Si on veut un peu plus de légèreté, on pourra parler des 250 millions d'euros ce soir.
Ça fait combien de jours?
C'est la dernière fois, je crois.
C'est la dernière fois?
Ouais.
C'est la dernière fois.
Ce soir, dans tous les cas, ça sera gagné. Même si vous manquez un numéro, tous les deuxièmes ou tous les qui seront au deuxième rang remporteront les 250 millions.
Ça fait 5 ou 6 tirages que c'est pas remporté.
Parce que ça n'a pas été remporté.
Oui, alors c'est où ce mardi ou vendredi, le dernier tirage où on peut gagner 250 millions d'euros.
Euro-millions et guerre entre Israël et l'Iran au menu de Pascal Proévost de 11h à 13h. À tout à l'heure, Pascal. Tiens, je vous rappelle aussi que toute cette semaine, votre radio préférée réunit la grande famille Europe 1, et donc tous les jours, vous pouvez découvrir comment la rédaction d'Europe 1 travaille, elle fonctionne, comment elle prépare l'information libre que vous entendez, et vous pouvez aussi assister à des émissions.
Oui, alors pour en découvrir plus sur la grande semaine de la famille Europe 1, eh bien vous pouvez aller sur Europe 1.fr ou sur l'appli Europe 1 pour vous inscrire. Et puis cette semaine spéciale Grande Famille Europe 1, c'est aussi l'occasion de revenir sur les grands moments qui ont marqué cette année, comme l'élection du pape Léon XIV, c'était le 8 mai dernier. Souvenez-vous, la fumée blanche est apparue pendant que Laurence Ferrari était à l'antenne.
Nous sommes en direct sur CNews et Europe 1, 18h08. Nous vivons d'un côté ces cérémonies sous l'Arc de Triomphe, et de l'autre côté nous avons le Vatican, où la fumée blanche vient de s'élever. Cela veut dire que nous avons un nouveau pape. Que le conclave, a désigné le successeur du pape François. C'est une nouvelle extrêmement importante. C'est très symbolique ce que nous vivons en réalité. C'est un télescopage de deux moments d'histoire. Et on voit les fidèles, et je le dis pour les auditeurs d'Europe 1 qui exulte de joie sur la place Saint-Pierre, parce que c'est vrai que l'annonce d'un nouveau pape, c'est une annonce planétaire, et évidemment, nous sommes là en train de vivre
en direct, quelque chose de tout à fait extraordinaire.
Voilà, vive l'info en direct, c'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est pas toujours facile, hein, parce qu'il faut meubler.
Non, c'est pas évident.
Bon, bah, Laurence Ferrari, justement, elle viendra vous raconter comment ça se passe tout à l'heure à Nissa Haddadi, puisqu'elle sera l'invitée de Culture Média avec Thomas à 9h30.
Oui, bah, cette semaine de la Grande Famille Europe 1, c'est aussi l'occasion pour tous les animateurs et journalistes de votre radio de se rencontrer, d'échanger leur place, de venir se voir. D'ailleurs, vous serez Dimitri, l'invité de Culture Média ce jeudi. On va en savoir plus sur vous, on va retracer votre parcours.
Ah bon,
Dimitri, vous allez être cuisinier aux petits oignons, ne vous inquiétez pas. Et aujourd'hui, c'est Laurence Ferrari qui sera l'invité de Culture Média à partir de 9h30. On va évidemment parler de son rôle de journaliste et son rôle de présidente aussi du JDD et du JD News. Et puis, ne manquez pas l'invité culture de ce matin, Raphaël Quenard, avec son premier roman, Clemcé à Tataouine.
Voilà pour le programme Culture Média, c'est à 9h30 sur Europe 1. Et dans un instant, bonne journée à vous, l'heure des pros.
À tous ceux qui n'aiment pas spécialement se lever le matin, ni aller au travail, ni cuisiner tous les jours, ou se brosser les dents. Bref, à tous ceux qui trouvent que le quotidien, ça n'est pas assez bien pour être cher. Bah oui, je suis désolé, c'est surcoté le quotidien. Intermarché propose jusqu'à 1000 produits du quotidien à prix bas. Ah bah voilà ! Comme le paquet de 4 liégeois chocolat pâturage, une marque Intermarché à 1,09€ seulement. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 400 grammes, soit 2,73€ le kilo, transformé en France. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Bouleversé par le décès de mon père, ça a été un soulagement de découvrir qu'il avait pris un contrat de prévoyance obsèques chez Roc Éclair. Tout était financé, organisé. Roc Éclair s'est arrangé pour qu'on ait aucun frais avancé. Ça nous a permis de réaliser la cérémonie qu'il aurait souhaité.
En ce moment, 2 mois offerts pour tout contrat de prévoyance Roc Éclair, conclu avant le 30 juin 2025.
Roc Éclair, là pour vous.
Hors prime périodique sur un an, distribué par Prévoyance FI. Conditions détaillées en agence et sur roqueclair.com.
Je vois la détresse de mon mari. Il était pâle, il était pas bien.
Quand Marine a été cambriolée, Amaury, son agent mutuel de Poitiers, était là pour elle.
Donc du coup, j'appelle Amaury et mon mari me regarde et je lui dis « Mais t'inquiète pas, il arrive. » « Ah, mais il arrive là maintenant ?» Oui, je lui dis « Il arrive maintenant. »
Oui, on est présent, on se déplace, on vient, on est l'assureur de proximité, on n'est pas une plateforme téléphonique.
Et il m'a accompagnée du début jusqu'à la fin, donc ça vaut de l'or.
Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît. Et pour vous, ça change tout.
Radio,
enceinte connectée,
ordinateur,
tablette, mobile,
DAB+,
écoutez Europe 1, partout, tout le temps.
Ford Pro.
Allez patron, j'y vais.
Attendez.
Oui.
Vous êtes branché, Bénodier.
Ah bon, vous trouvez?
Mais non.
C'est vrai que je travaille mon style.
Non, le câble, c'est électrique. C'est le nouveau e-Transit Custom, Bénodier.
D'accord.